cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est le Polak qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM poursuit l'évocation de la situation sociale et économique des pays d'origine des travailleurs étrangers et les raisons qui les amenèrent dans notre région. Aujourd'hui, nous parlerons des Italiens et des Espagnols venus après la Seconde Guerre mondiale.
Après la Seconde Guerre mondiale, les planteurs de betteraves ont à nouveau recours à l'introduction de main-d'œuvre étrangère qui, dès le début des années 50, viendra d'Italie et atteindra son maximum en 1958 avec 4000 saisonniers pour les binages et 2000 pour l'arrachage dans l'Oise. Les Espagnols prendront le relais dès 1960 et seront 3000 pour biner en 1962 et un peu plus de 1000 à l'arrachage. La mécanisation supprimera peu à peu cette dernière opération.
De l'immigration italienne dans notre région, on peut dire qu'elle est la dernière étape d'un mouvement très ancien, puisque les Italiens, comme les Belges, traversaient la frontière depuis toujours pour s'embaucher dans l'agriculture méditerranéenne, puis peu à peu exercer de multiples métiers, dont les plus connus seront le travail des mines, le terrassement et l'industrie automobile. Ils seront aussi assez nombreux à s'installer comme agriculteurs dans le sud-est et le sud-ouest. Un prêtre du Mulsien se souvient d'eux.
Dans les Pouilles, par exemple, c'était le chômage total. C'était une question de survie. Quand ils venaient ici, c'était pour survie. Dans le nord de l'Italie, c'est-à-dire la vallée du Pô, province de Padoue surtout, province de Padova, Verona, Vicenza, bon, très vite, mais surtout la province de Padoue. Presque tous venaient de la province de Padoue. Alors, c'était des... Bon, on était au lendemain, ou au surlendemain de la guerre tout de même. L'Italie avait été ravagée, comme vous le savez. C'était le chômage. C'était. Et puis, alors, s'ils avaient du travail, c'était très, très, très peu rémunéré. Dans la vallée du Pô, ils sont tous un petit peu. Comment on appelle ça? Contadini. Hein, c'est-à-dire tout petit paysan.
Les Pouilles et la basse vallée du Pô se trouvent aux deux extrémités de l'Italie. Les Pouilles se situent au sud-est de la Botte, du côté de la mer Adriatique. On y cultive la vigne, les oliviers et le tabac sur des exploitations minuscules. C'est une région surpeuplée. La basse vallée du Pô s'étend au nord-est de l'Italie. Près de la moitié des terres sont des plaines alluviales où tout peut pousser et la terre y est exploitée de façon très intensive depuis plus d'un siècle. À côté d'exploitations familiales tenues par des propriétaires, des fermiers ou des métayers, de grandes exploitations gérées par des fermiers employaient une masse considérable de journaliers sans terre. Au début des années 30, les grands travaux d'assèchement des plaines marécageuses, comprises dans le delta du Pô et le long de son cours, favoriseront la création de nouvelles exploitations de grande dimension.
Cette région est restée essentiellement agricole jusqu'en 1950-1960 et n'a pas connu avant cette date les grandes vagues de migration des campagnes vers les villes ni vers l'étranger qui touchaient si fortement d'autres régions d'Italie. Comment peut-on expliquer le chômage massif dont nous parle ce prêtre du Mulsien ? Chômage qui sévit après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'absence de migration importante dans toute la première moitié du XXe siècle présuppose qu'un relatif plein emploi semblait exister au préalable. Pour répondre à cette interrogation, il nous faut raconter un pan, sans doute unique, de l'histoire des ouvriers agricoles en Europe.
Tout d'abord, pourquoi trouvait-on une telle concentration de journaliers dans la vallée du Pô ? La première explication est d'ordre agronomique. Depuis la fin du XIXe siècle, quatre productions qui demandaient une surabondance de bras y étaient pratiquées à côté des cultures traditionnelles comme le blé, le maïs, la betterave à sucre et la vigne. Il s'agissait de la soie, du chanvre, du lin et du riz. Ces productions se faisaient dans différentes micro-régions de la vallée du Pô, mais elles donnaient toutes de nombreux jours de travail, comme le bêchage après labour pour semer le chanvre, ou le repiquage et le désherbage du riz, qui donnaient lieu à de grandes migrations dans la basse et la moyenne vallée du Pô. Plus encore, certaines d'entre elles, comme l'élevage des vers à soie, pouvaient être réalisées par des familles de journaliers sans terre, les femmes trouvant alors un travail à temps partiel dans des filatures locales.
Malgré tout, cet éventail de travaux agricoles n'offrait pas plus de 150 à 200 jours par an de travail. Il est évident qu'au cours des mois d'hiver, cette main-d'œuvre sans terre et sans travail fixe aurait été largement sous-employée sans la possibilité d'être embauchée l'hiver par des associations de bonification des sols pour l'entretien du système hydraulique, le nivellement des terrains et plus tard par l'État dans les grands travaux d'assèchement du delta. Ces travaux donnaient lieu, eux aussi, au regroupement de masses considérables de travailleurs qui se déplaçaient en bande par village. C'est sans aucun doute grâce aux formes particulières d'organisation dont se sont dotés les journaliers que cet équilibre précaire a pu durer plus de 100 ans, leur permettant ainsi de rester dans cette région et de survivre, eux et leurs familles.
Les journaliers, qui se déplaçaient en bande au début du XXe siècle, se constituèrent peu à peu dans chaque village en ligue dont le chef négociait les embauches, les conditions d'emploi et de rémunération, soit localement, soit pour les grands travaux agricoles en dehors de la commune et les travaux d'aménagement divers. Ces ligues fonctionnèrent comme un organe de régulation du marché du travail au niveau de chaque village, assurant à chaque membre l'égalité du nombre de jours travaillés et la même rémunération pour tous. La capacité de distribuer avec équité entre les travailleurs le peu de travail disponible dans les champs entre la fin de l'automne et le printemps était la plus appréciée.
En 1911, on dénombrait 946 ligues locales dans les provinces de la vallée du Pô auxquelles étaient inscrits 225 000 ouvriers. L'ampleur de ce mouvement explique qu'ils pourront faire pression sur l'État pour obtenir l'expansion des travaux d'utilité publique qui leur assurait un peu de travail en hiver. De même, pour cette période de chômage, ils imposèrent aux propriétaires agricoles l'emploi des journaliers pour un minimum de jours de travail afin d'effectuer des travaux d'entretien ou des améliorations foncières. Il est évident que dans ce contexte, les propriétaires limiteront ou renonceront à l'emploi de machines qui risquait de remettre en cause un équilibre si précaire.
Des heurts se produiront inévitablement entre ces journaliers organisés et les employeurs. Mais l'intérêt des propriétaires agricoles de pouvoir disposer de cette armée de journaliers pendant les périodes de pointe était tel qu'ils proposeront un système de coparticipation pour tenter de lier ces journaliers à la terre et réduire les conflits. L'entreprise fournissait un lopin de terre labourée et ensemencée que l'ouvrier devait travailler manuellement avec sa famille, moyennant quoi il recevait un tiers de la production obtenue en nature. La répartition égalitaire de ces terres sera aussi assurée par les ligues en fonction du nombre de personnes composant chaque famille. L'enjeu de la production agricole dans cette partie la plus fertile de l'Italie était si important que le régime fasciste, pourtant hostile à toute forme d'organisation ouvrière, servira de médiateur entre les grands propriétaires terriens et les ligues pour maintenir l'essentiel du travail des ligues, que l'on pourrait comparer à des syndicats de base, afin d'assurer la survie des journaliers.
Ce système ne pouvait cependant pas résister aux transformations économiques et sociales qui transformeront l'Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1950, les piliers sur lesquels reposait le monde de la main-d'œuvre agricole de la plaine du Pô commencèrent à céder. Rappelons les étapes principales de cet effondrement qui seront le prélude à la venue des Italiens de la vallée du Pô dans notre région.
Dès 1949, une loi institue la création dans chaque village d'un bureau de placement de la main-d'œuvre. L'affaiblissement du mouvement syndical italien ne permettra pas au mouvement des ouvriers agricoles de garder le monopole de la distribution du travail disponible. Parallèlement, les marchés du lin et surtout du chanvre étaient en crise et ce dernier disparaîtra en quelques années, remplacé par des cultures fruitières et l'élevage. De plus, la croissance des industries de machines agricoles entraîne le développement rapide de la motorisation et de la mécanisation. Des milliers de journées de travail firent alors défaut pour l'emploi agricole.
Enfin, entre 1948 et 1950, une mini-réforme agraire permettant l'expropriation de grandes propriétés foncières du delta du Pô pour améliorer la situation sociale des ouvriers agricoles auront des effets contradictoires. Ces quelques milliers d'hectares attribués à autant de familles d'ouvriers agricoles avec une maison et une étable seront sans doute une promotion pour leurs bénéficiaires devenus de ce fait petits propriétaires. Mais ces terres expropriées réduisirent d'autant les terres distribuées au préalable aux ouvriers par le système de la coparticipation.
Dans ce contexte, l'essor de l'industrie, accompagné du redémarrage des activités du bâtiment dans le triangle Turin, Milan et Gênes, provoquera l'émigration en masse de la main-d'œuvre agricole vers cette région et la nécessité impérative d'émigrer à l'étranger pour ceux qui ne voudront pas partir en usine. Dès 1949, ils viendront faire les campagnes de betteraves en France. En 1958, ils seront 30 000 répartis dans les départements betteraviers.
Les Espagnols aussi viendront de plusieurs régions. Les uns de la province de Teruel, en Aragon, au nord-ouest de l'Espagne, sont des petits paysans qui vivent sur des terres pauvres et la majorité des autres viennent d'Andalousie, où ils font des saisons successives en Andalousie, dans d'autres régions d'Espagne et, quand ils le peuvent, à l'étranger. La concentration des ouvriers agricoles sans terre en Andalousie est comparable à celle de la vallée du Pô en Italie. Mais les orientations de l'agriculture sont radicalement différentes.
Pour comprendre cette situation, il faut rappeler la structure foncière de l'agriculture andalouse. Depuis des siècles, la concentration des terres y est considérable. Dans la province de Cadix, en 1962, les exploitations de 100 à plus de 1000 hectares occupaient 75% des terres et celles de plus de 1000 hectares avaient une superficie moyenne de 1800 hectares. Les principales productions étaient le blé, les olives pour faire de l'huile et l'élevage bovin ou ovin. À côté des labours et de quelques emplois pour soigner les bêtes, le travail des journaliers se résumait à la taille des oliviers et à la cueillette des olives qui durent environ 2 mois. Que pouvaient faire ceux qui ne disposaient d'aucune terre ou seulement d'un petit jardin parmi ceux qui entourent les gros bourgs peuplés majoritairement d'ouvriers agricoles ?
Dile que doblando está. Por mi muerta esperanza,
un sociologue espagnol a interrogé des saisonniers andalous et rappelle l'extrême pauvreté subie depuis leur enfance. L'un d'entre eux lui a confié.
J'ai 40 ans.
Mon père était journalier comme moi. Chez nous, on avait très faim. Très jeune, j'ai commencé à aller au champ. Mes parents avaient besoin de ma paye. À 12 ans, j'allais déjà faucher, cueillir les olives, tailler les oliviers. J'ai jamais eu le temps d'aller à l'école. Depuis l'âge de 7 ans, où je gardais les chèvres et les cochons, toute la journée dans les champs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de travailler. Je me rappelle que j'allais avec mon grand-père, qui était berger, on me payait très peu, deux ou trois pesettes. À l'école, je n'y suis pas allé, quelques semaines seulement. Juste le temps qu'il fallait pour pouvoir faire ma première communion, sinon le curé ne nous la laissait pas faire. À 15 ans, j'ai appris à lire le soir avec une institutrice et aussi à écrire et les quatre opérations. Ma femme, sur ce plan-là, c'est la même chose. Elle a 34 ans et elle ne sait ni lire ni écrire. À 11 ans, elle a commencé à travailler dans le livre et elle n'a pas arrêté. Quand elle ne travaille pas, c'est parce qu'elle accouche et qu'elle ne veut pas faire autre chose.
Dans les années 50-60, lorsque le mois de septembre arrivait, les villages andalous étaient presque déserts. Seuls restaient les vieux et les enfants, ceux qui ne vivaient pas des champs ou ceux qui possédaient une propriété pour les occuper. En mars, les premiers groupes partaient pour la fraise en France. En mai, c'était les betteraviers et le départ des femmes vers la région de Riora, au centre de l'Espagne, pour les asperges. D'autres partaient en juin, cueillir les haricots puis les fruits dans le Lot-et-Garonne et le Var, les légumes dans la province de Valencia en Espagne, la tomate près de Riora encore, puis les vendanges dans le sud de la France. Enfin, presque tous cueillaient les olives. Un autre saisonnier raconte.
La première fois que vine...
La première fois que je suis venu, j'avais 27 ans. Les gens ont commencé à partir et je me suis mis sur les rangs aussi. C'est depuis ce temps-là que je viens en France tous les ans. Je m'arrange pour faire la récolte de betteraves et de la chicorée en France et la récolte d'olives en Espagne. Plus un petit surplus à la journée qui tombe de temps en temps. C'est comme ça qu'on vit.
Et si de vez en quando hago algún jornal, pues eso que me cae. Es así como vivo.
Les périodes de travail en France représentaient pour certains 60% de leurs revenus annuels, comme le montre l'analyse des gains perçus par un journalier au début des années 70. Cette année-là, le père avait effectué le démarrage des betteraves pendant 2 mois et passé 45 jours aux endives. Puis il est revenu faire les vendanges en France pendant 25 jours avec sa femme. En Andalousie, il n'a pu faire que la récolte des olives, là encore avec sa femme, et 3 semaines de travail à la journée dans son village. Si l'on convertit la somme globale gagnée par cette famille, composée de 7 personnes, en revenus mensuels, on arrive à 22 000 pesettes, soit 1 300 francs. Or, cette année-là, on estimait que le budget minimum pour vivre en Andalousie se montait à 20 000 pesettes, presque 1 175 francs. Somme qu'il n'aurait certainement pas pu gagner sans émigrer. On peut comprendre que les départs vers la France étaient une question de survie. Avec le temps, les départs sont cependant de plus en plus difficiles à supporter, surtout pour les saisonniers qui partaient seuls. Un autre journalier le confirme lors d'une interview réalisée au début des années 70.
Non, je n'ai jamais pensé rester à l'étranger. J'étais très attaché à ma famille et à mon village. Maintenant, je suis marié, j'ai une petite fille. J'ai 48 ans. Je me suis marié à 40 ans. À chaque fois que je pars, c'est de plus en plus dur.
Tengo nostalgia de la casa.
J'ai la nostalgie de la maison.
Siempre uno piensa en los suyos.
On pense aux siens.
Y esto no es vida.
Ce n'est pas une vie.
Al cabo de
au bout de 15 jours ici, je perds 7 kilos. Et encore, on s'écrit presque tous les jours, ma femme et moi, et de temps en temps, je l'appelle au téléphone.
Con mi mujer, y que la llamo de vez en cuando por teléfono.
C'était « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, l'origine des travailleurs étrangers, le cas des Italiens et des Espagnols. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.